Alors, donc, les sunnites, 90% du monde musulman, ils sont répartis dans le monde entier. Les chiites, 7%, eux sont répartis pour l'essentiel en Irak, en Iran, pardon, excusez-moi. L'Iran s'est donné le chiisme comme religion d'État quand l'islam a conquis toute la région asiatique. Donc l'Iran, qui était la Perse avant, qui n'aime pas du tout les Arabes, les Persans se considèrent comme très supérieurs aux Arabes, ils ont accepté l'islam, mais dans sa version chiite. Le chiisme est religion d'État en Iran. Et on trouve des chiites très nombreux, en majorité d'ailleurs aussi, en Irak. La guerre de 2003 qui a conduit à la chute de Saddam Hussein était un sunnite, cette guerre a donné le pouvoir aux chiites qui sont majoritaires, et que Saddam Hussein, en tant que sunnite, détestait et combattait, et persécutait même. Oui. Alors il y a beaucoup de chiites aussi au Liban. Au Liban, il y a des chrétiens et des musulmans, vous savez. Dans le contexte islamique, parmi la famille musulmane au Liban, aujourd'hui, les chiites sont majoritaires. Et puis, il y a des chiites aussi dans certains émirats du Golfe Persique et un peu en Arabie saoudite. Mais alors, je vous le disais tout à l'heure, les chiites du chiisme sont issus, trois communautés qui sont minoritaires aujourd'hui, qui ont fait dissidence par rapport donc au chiisme. Je vous dis quelques mots parce que on en parle beaucoup dans l'actualité. Il y a les druzes et les alaouites essentiellement. Les druzes, c'est une communauté, selon ce qu'on sait, parce que c'est une communauté dont la doctrine est cachée. On parle d'ésotérisme caché, donc. Les druzes seraient nés au XIe siècle en Égypte, parce qu'à ce moment-là, le monde musulman, à nouveau, a été gouverné par une dynastie chiite. Il y a eu des alternances, vous voyez. Après le meurtre d'Ali et de Hussein, c'est vrai que les sunnites ont pris le pouvoir, mais par la suite, les chiites sont revenus à la tête de la nation islamique. C'était essentiellement entre le 10e, 11e et 12e siècle, avec une dynastie chiite qui régnait sur l'ensemble musulman de l'époque, à partir du Caire en Égypte. C'était la dynastie Fatimide, qui était née à Tunis et qui s'est transférée au Caire. Le Caire était la capitale du monde islamique. Et donc de là sont nés les druzes, dont le fondateur s'appellerait Darazi, d'où le mot druze. Donc il a totalement abandonné la doctrine musulmane pour fonder un groupe à part qui n'a presque plus rien à voir avec l'islam. Et comme ils ont été persécutés, les premiers druzes, ils se sont réfugiés dans les montagnes. En Égypte, c'est tout plat, hein, vous savez. Ils sont allés dans les montagnes du Liban, de Syrie et de Palestine, où on en trouve encore beaucoup. Mais leur berceau, c'est le Liban. Alors leur doctrine, c'est une doctrine donc cachée, mais aussi syncrétiste, c'est-à-dire on trouve dans la doctrine druze des emprunts à d'autres traditions religieuses ou philosophiques. Par exemple, il y a des traces d'hindouisme dans le druzisme. C'est étrange. Dans certains de leurs livres, on lit qu'ils sont plus proches des juifs que des musulmans. Ils ne pratiquent pas la polygamie, ils sont monogames, les druzes, et ils se marient entre eux, normalement. On appelle ça l'endogamie. On ne sort pas de la communauté. Cette communauté est très très minoritaire, mais les druzes sont de grands guerriers. Et pendant la guerre du Liban, vous savez, j'ai vécu cette guerre, hein, tout à l'heure M. Semen vous a dit, j'ai passé plusieurs années au Liban, eh bien les druzes ont été des guerriers ardents. Ils ont chassé d'ailleurs tous les chrétiens de la région où ils sont les plus nombreux. Et puis alors les alaouites, donc c'est une autre communauté qui est dissidente du chiisme. Alors là, on ne connaît alaouite. Oui, pardon. A-L-A-O-U-I-T-E-S. Les alaouites, leur nom vient de Ali, le père spirituel des chiites. Mais on ne connaît rien de leur origine. On ne sait pas dans quelles circonstances ils sont apparus. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été également persécutés, considérés comme hérétiques. Les druzes aussi, bien sûr, sont considérés comme hérétiques. Et ils ont été obligés de se réfugier dans des montagnes, et eux ont choisi les montagnes de la Syrie actuelle, essentiellement les montagnes qui sont au bord de la Méditerranée, entre le Liban et la Turquie. C'est une zone très montagneuse, très, très belle d'ailleurs, enfin, ça ressemble beaucoup au Liban. Et c'est là leur berceau. Alors, c'est pareil, ésotérisme caché, donc, et syncrétisme, des emprunts à d'autres traditions et un grand éloignement par rapport à la doctrine classique de l'islam. Par exemple, on dit que chez les Alaouites, on a emprunté certains rites chrétiens, comme la vénération d'une sainte, Sainte Barbe, Barbara en arabe. Sainte Barbe, elle a été martyrisée pendant les persécutions romaines au IIIe siècle, près de Baalbek, au Liban, grande ville libanaise, et donc elle est très connue dans toute la région, et comme c'est tout près du berceau des Alaouites, bon, on peut comprendre. Et puis, alors, aussi bien les Druzes que les Alaouites n'ont pas de mosquée, traditionnellement. Ils ne prient pas à la mosquée, ils ne prient pas le Coran, oui, c'est... Mais il y a des moments où ils sont obligés de faire allégeance à l'islam majoritaire. Alors je vous dis un fait, par exemple. Quand, vous savez, on parle beaucoup du printemps arabe. Si ça vous intéresse, je vous donnerai un peu mon opinion, mais à la fin. Alors, en Syrie, aujourd'hui, le pouvoir est dominé par la minorité alaouite, ces alaouites-là, depuis 1970. Et celui qui a pris le pouvoir, c'est Hafez al-Assad, le père de l'actuel président, qui s'appelle Bachar. Hafez al-Assad est mort en 2000. Donc de 70 à 2000, il a gouverné la Syrie, alors que la majorité de la population en Syrie est musulmane sunnite. Quand il a pris le pouvoir, il a voulu enlever l'islam comme religion officielle de l'État. Ça, il a pu le maintenir. Mais il a aussi, dans la nouvelle constitution, supprimer l'appartenance du président de la République à l'islam, comme c'était le cas avant. Alors, il y a eu des protestations de la part des savants et des religieux musulmans. Ils ont dit ce n'est pas possible, la présidence doit revenir à un musulman. Alors, Hafez al-Assad s'était emparé du pouvoir par un coup d'État, mais il a bien vu qu'il fallait faire quelque chose, donc il a finalement fait allégeance à l'islam sunnite. Alors qu'il est alaouite. Voilà un exemple de taqiya, de dissimulation. Il a dissimulé sa véritable identité, même si ça n'a trompé personne, évidemment. Tout le monde sait qu'il est alaouite et qu'il tient à son identité. Mais publiquement, il est allé à la grande mosquée des Omeyyades à Damas pour prier à la manière musulmane sunnite. Et puis, par la suite, j'ai visité la montagne... là où il y a le berceau des Alaouites, et notamment le village natal de la famille, enfin des Assad, et ils ont construit une grande mosquée à l'entrée du village, alors qu'il n'y a pas de mosquée dans ce pays. Une mosquée de style chiite, pour rappeler un peu les origines Ali, vous voyez. Et voilà, tout ça pour faire, tenir compte du rapport de force. Mais il n'empêche que Hafez al-Assad et son fils font une politique favorable essentiellement aux Alaouites. Soudés dehors... voilà, musulmans orthodoxes, si vous voulez. Alors, pour ce qui concerne le mot alaouite, je voulais vous dire une chose aussi, c'est que ce mot s'applique également à la monarchie qui règne au Maroc. On parle de la dynastie alaouite, mais ce n'est pas la même chose. Les alaouites du Proche-Orient donc, sont un groupe dissident de l'islam chiite, considéré par les chiites comme hérétique. Tandis que la dynastie alaouite au Maroc est une dynastie sunnite. Et si on parle de dynastie alaouite, c'est parce que, selon ce que nous disent les Marocains, le roi du Maroc descend de Mahomet par Ali. Donc il y a un rattachement généalogique là. Alors ne confondez pas, quand vous verrez dans les journaux « dynastie alaouite au Maroc », c'est une dynastie sunnite. Mais avec une définition généalogique, la lignée donc, du roi. Voilà. Et au Proche-Orient, donc c'est ce groupe-là. Alors il y a un troisième groupe dissident du chiisme, ce sont les Ismaéliens, I-S-M-A-E-L-I-E-N, l'ismaélisme si vous voulez. Alors c'est pareil, on ne connaît rien de leur origine. C'est un groupe donc ultra minoritaire. Ce qu'on peut dire, c'est que les Ismaéliens, ils sont gouvernés par l'Aga Khan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'Aga Khan. Vous avez entendu. Alors, les Ismaéliens sont un groupe totalement pacifique, très éloigné aussi de la doctrine orthodoxe de l'islam. mais très pacifique, et ils sont répartis un peu dans le monde entier. Ils sont extrêmement riches. L'Agacan est multimilliardaire. Et il faut, voilà, il passe son temps à faire du bien, y compris pour les non-chiites. Par exemple, au Caire, l'Aga Khan a fait construire un immense jardin au-dessus de la ville. Si un jour vous allez au Caire, allez-y, c'est magnifique, avec des jets d'eau, des restaurants, des pelouses, des fleurs partout. Et pour les habitants du Caire, c'est très bien, parce qu'au Caire, on a du mal à respirer avec la pollution. Il y a 20 millions d'habitants, une circulation démentielle. Alors, donc, cet espace qui est très très grand au-dessus du Caire, qui permet de respirer, il y a une plaque à l'entrée qui dit que c'est l'Aga Khan qui l'a offert aux habitants du Caire pour leur donner un espace de, voilà, d'agrément, si vous voulez. Voilà, je vais vous donner cet exemple pour vous montrer que les Ismaéliens ne sont pas du tout dans une logique d'affrontement avec les autres communautés musulmanes ou issues de l'islam, comme le sont les chiites par rapport aux sunnites, mais aussi les alaouites et les druzes. Alors, les chiites, les druzes et les alaouites continuent à être considérés comme des hérétiques par l'islam sunnite. Voilà, excusez-moi, c'est un peu compliqué, je sais bien, mais je pense que c'était important de vous parler de ça. Aussi, je vais terminer cette partie-là pour vous montrer un peu comment ce qui s'est passé en même temps que ces clivages qui perdurent aujourd'hui,